7h28 minutes et notre chroniqueuse politique Jacinthe-Ève Harel est avec nous. Elle était là vendredi dernier et je lui ai donné une petite date. J'ai dit réserve ton mercredi matin s'il vous plaît pour nous parce que mardi c'est la présentation du budget fédéral. Puis on voulait en jaser ce matin. Jacinthe-Ève, comment tu vas?
Ça va bien.
On avait eu beaucoup d'annonces de dépenses par les libéraux au cours des dernières semaines. Il restait-tu des surprises dans la présentation du budget fédéral, en tout cas pour toi?
Oui, il restait quand même des surprises parce que bien qu'il y avait des spéculations, là, on n'avait pas encore une idée de à quel montant, à quelle hauteur on aurait un déficit. On spéculait 50 milliards, on spéculait 40
milliards. On visait plus haut.
Hein? Oui, exactement. Donc ça s'est confirmé. Il y a beaucoup de choses qui se sont confirmées aussi. C'est comment le coût de notre dette, parce qu'il faut savoir que là, on a annoncé, là, on sait que ça va être 40 milliards de dette pour cette année, mais il y a un coût à ça parce que notre dette, à un moment donné, elle arrive à échéance. Il y a des parties, des portions de notre dette qui arrivent à échéance et ces portions-là, on doit les refinancer. Et on doit les refinancer au taux d'intérêt actuel. Oh. Et comme les taux d'intérêt nous affectent tous personnellement, hein, avec nos hypothèques, avec nos prêts automobiles, bien, ça affecte aussi la dette publique. Et quand on doit refinancer une dette, quand les taux d'intérêt sont bien, plus élevés. Bon, il y en a qui vont dire qu'ils ont déjà été plus élevés dans l'histoire, là, mais il reste qu'actuellement, ouais, c'est des taux d'intérêt qui sont plus élevés que ce qu'on a connu dans les dernières années. Bien, ça fait que le coût de notre dette est énorme. Et cette année, bon, ça va s'élever. Les frais de la dette, juste les frais de la dette, ça va nous coûter 54,1 milliards de dollars. Juste le coût de notre dette. Ça, c'est ce que vous payez en intérêt sur votre carte de crédit, là. Donc, c'est vraiment ça que ça coûte, 54 milliards. C'est les équivalent de ce que le gouvernement du Canada va percevoir en TPS.
J'ai vu ça passer. C'est ce qu'on paye chaque citoyen en TPS quoi, ouais, dans une année?
Oui.
C'est ça fou, qui est les intérêts, ouais, sur la dette.
Ouais. Et c'est un autre montant, là, pour donner un comparable, c'est aussi l'équivalent des transferts en santé du fédéral vers les provinces. Donc, si on avait, admettons qu'on n'avait pas ce 54 milliards de frais de dette à chaque année, du moins pour cette année, on pourrait doubler les transferts fédéraux en santé. Imaginons si on avait le double des transferts fédéraux en santé, comment ça changerait la vie des citoyens au quotidien, au moins en ce qui a trait aux services,
absolument,
de santé.
Et là, ce qui est encore plus critique, c'est qu'on parle d'un déficit qui, dans 5 ans, va être à 20 milliards. Fait que là, tu sais, on va diminuer tranquillement, mais encore avec des gros chiffres, qui vont nous amener en 2028-2029 à avoir des intérêts sur la dette à 64 milliards. Fait que 10 milliards de plus que cette année. Comment qu'on va faire pour aller chercher tout ça?
Bien, il faudrait créer de la richesse. Et c'est là où les économistes les plus critiques à l'endroit de ce budget-là, ou les plus réalistes et pragmatiques, moi, je dirais même pas critiques,
ouais, ouais,
mais les économistes qui sont inquiets face à ce budget-là, c'est ce qu'ils disent. C'est qu'on n'a peut-être pas assez encore, cette fois-ci, investi dans la création de richesse. Puis investir dans la création de richesse, ça veut dire stimuler l'économie. Ça veut dire qu'on prend les domaines de pointe, les domaines d'avenir, comme l'intelligence artificielle. On l'a fait un peu là, avec l'intelligence artificielle, mais on prend des domaines dans lesquels on est déjà en avance sur le reste du monde, on est déjà en tête de liste et on investit pour stimuler l'économie. Donc, on favorise le réinvestissement privé par l'investissement public. Donc, c'est-à-dire qu'on vient s'assurer que les gens qui ont, les entreprises qui ont beaucoup d'argent, ceux qui ont des capitaux importants, qu'il y ait des intérêts qui perçoivent des avantages considérables à dire « Ah, ben je vais investir dans la modernisation de mon usine où je vais construire 3 fois plus d'usines au Québec parce qu'il y a au Canada dans ce cas-ci, parce qu'il y a un incitatif finalement à créer de la richesse et créer plus de biens, créer plus de services. Donc, parce que c'est ça au bout du compte, hein, notre économie est basée sur qu'est-ce qu'on produit comme biens et services, qu'est-ce qu'on est capable d'exporter et la richesse qu'on crée avec ça. Et pour ça, bien, le gouvernement habituellement prévoit des mesures pour créer de la richesse. Là, on a un gouvernement, on a un budget qui s'adresse un peu plus à l'ensemble des électeurs et qui a saupoudré beaucoup d'argent partout, partout, partout. Mais quand on saupoudre de l'argent partout, partout, on essaie de faire plaisir à tout le monde, mais on n'est pas dans une perspective de création de richesse.
Mais justement, parlant de, d'essayer de faire plaisir à tout le monde, puis d'ensemble des électeurs, l'ensemble des électeurs ce matin ou hier après-midi voit « Ah, finalement, c'est juste 40 milliards la dette. » Est-ce que, puis je suis pas mal sûr de la réponse, mais est-ce que le gouvernement fédéral savait très bien ce qu'il faisait en laissant un peu tout le monde penser que ça va être plus autour de 45-50 milliards? Lui, il savait que ça allait être 40, mais voulait comme que ça sorte hier, que c'était, entre guillemets, juste 40, pour que monsieur, madame, tout le monde fasse « Hey, c'est juste 40 ».
Oui, bien, c'est sûr qu'il y a des stratégies de communication en arrière de ça, puis ça, ça en était une. L'autre stratégie qui a été utilisée, en plus de faire nous donner l'illusion que la dette allait ou le déficit allait être plus grand, c'est aussi d'avoir fait deux semaines d'annonces positives. Ouais. Donc, on s'assurait là, d'imprégner l'imaginaire de tout le monde que finalement, on s'occupait enfin de vos besoins, on s'occupait enfin de vos préoccupations. On est là pour vous. On est là pour vous, chers Canadiens, Canadiennes. On va continuer d'être là pour vous. C'est ça, le message. Et bien sûr, de donner l'illusion que finalement, notre déficit est plus sous contrôle que prévu. Ouais. C'est une tactique de communication. Je pense que, par contre, les gens, on est bien informés. Hein? On est à l'ère de l'information instantanée. On est à l'ère il se produit plus de contenu qu'on est capable d'en écouter, les émissions de radio, les podcasts, tout ça. Donc, les gens sont beaucoup plus au fait. Ils se font moins avoir dans ces stratégies de communication-là, j'ai l'impression. Ils savent bien que ça fait partie du jeu politique. Mais clairement, on est en face d'un budget qui est beaucoup plus politique qu'économique. C'est ça, moi, mon grand message ce matin, c'est que c'était clairement, c'est un budget qui est pensé avec une tête de politicien. C'est un budget politique, c'est pas un budget économique, c'est pas un budget qui vise à propulser le Canada vers une posture plus forte sur le plan des marchés internationaux, sur le plan de la compétitivité internationale, pas du tout.
C'est vrai qu'on est moins dupé de nos jours par les shows de boucan. Hein, pas tout le monde, mais on est moins dupé par les shows de boucan. Jacinthe Eve, on entend souvent dire dans les médias, OK, c'est un budget qui a été écrit, je sais pas, en rouge pour les libéraux. T'es en orange pour la NPD, en bleu pour les conservateurs. Quelle autre partie, là, ça plaît à qui? À quel autre parti fédéral, là, ce budget-là présenté hier?
Définitivement au NPD.
Ah oui, hein?
Oui, oui. Le NPD, il retrouve son compte, même si le NPD... Il aurait été plus loin. Le NPD a posé quelques questions à Chrystia Freeland concernant son budget. Il a dit pourquoi tu ne taxes pas davantage les pétrolières, par exemple, pourquoi tu ne taxes pas davantage les épiciers parce qu'ils font beaucoup de profit avec à l'épicerie, avec les biens de consommation de base. Chrystia Freeland a refusé d'aller là pour ne pas envoyer un message qui fasse peur aux investisseurs. Ouais. Donc, le NPD aurait souhaité qu'elle aille plus loin, mais elle est quand même allée se coller sur ce que le NPD souhaitait, c'est-à-dire investir énormément en logement. Puis ça, encore une fois, j'entendais un économiste hier dire tous les investissements en logement, on le perçoit comme quelque chose de très positif parce qu'on sait qu'on manque de logement. Mais en même temps, le secteur du logement, et c'est délicat à dire, là, c'est pour ça que je dis que c'est l'économiste qui l'a dit, mais il faut... Il faut quand même se donner l'ouverture à essayer de comprendre ce qu'il entend par là. Quand on investit énormément ou quand le gouvernement investit massivement dans le logement, on investit dans un secteur qui n'est pas nécessairement productif. Ça ne produit pas de richesse, ça ne produit pas... On n'est pas dans la création de richesse, on n'est pas en train de se propulser, on est en train de se doter d'infrastructures, on est en train de loger notre monde. C'est important.
On sait que c'est nécessaire,
ça ne constitue pas un investissement qui nous permet de dire on va devenir plus productif. Et bien sûr, notre PIB est calculé en fonction de notre productivité. Alors, c'est certain que c'est quelque chose qui peut être préoccupant aussi.
Surtout en grosse période de rattrapage comme on a actuellement sur le logement. Moi, je veux t'entendre sur les coupures annoncées de 5 000 postes dans la fonction publique. J'y crois pas.
Ah!
Je suis plate, moi, là, matin, de ne pas y croire parce que la CAQ m'avait promis ça puis la fonction publique est plus grosse. La machine augmente tout le temps. Fait que pourquoi je croirais les libéraux là-dessus?
Bien, moi, j'y crois parce que les libéraux ont tellement fait grimper le nombre de fonctionnaires dans la fonction publique fédérale depuis le début de leur règne. Il y a tellement beaucoup plus de fonctionnaires. J'aurais dû sortir les chiffres là, ce
que
matin.
Que l'on va être capable d'en revenir à un certain équilibre.
Ben oui, d'accord. Reculer de 5 000 fonctionnaires, là, on ne revient même pas au au point de départ de quand les libéraux sont entrés au pouvoir. Okay. Pas du tout. Donc, ça va être très, très facile. C'est un objectif facilement atteignable. C'est vraiment très modeste. C'est presque symbolique, hein, parce qu'en plus, 5 000 fonctionnaires, on ne va pas couper là, 5 000 fonctionnaires.
Non, il y en a 10 000 qui partent à la retraite.
Exactement. Là. On ne va juste pas renouveler certains de ces postes-là.
Ouais. Parlant de Chaud-Boucan, c'est un peu ça. T'sais,
ben oui.
C'est
ben
un chiffre. Ben on ne coupe pas 5 000 ben postes. On remplace juste.
Dans le fond, on en remplace juste un sur deux, ce qu'on fait dans plusieurs domaines présentement. Voilà.
Ben oui, ben oui. Non, puis tu sais, 5 000 fonctionnaires, ça peut nous paraître beaucoup, là, mais c'est très peu sur l'ensemble des fonctionnaires.
En effet.
Exactement. Oui,
on parle au pays, là, quand même. Là, quand même. OK, mais mettons le budget de côté un petit peu, Jacinthe-Ève. J'aimerais savoir ton opinion sur différents sujets. Entre autres, Talk of the Town, en tout cas depuis la présentation d'hier, le pont de l'île d'Orléans, 2,7 milliards. Comment tu réagis à ça?
C'est préoccupant parce qu'il y a eu seulement deux soumissionnaires. Mm-hmm. Hein? On a retenu un des deux soumissionnaires. Je me demande si... j'aurais aimé ça que la question lui soit posée. Peut-être qu'elle lui a été posée à Geneviève Guilbeault, là, qui faisait son point de presse hier à l'île d'Orléans. Concernant
Jeff était là.
Ouais, vas-y donc, j'étais là, fait que je vais te le dire.
Mais je me demande, est-ce qu'elle s'est posée la question? Est-ce qu'on repart en appel d'offres?
Oui, elle s'est posée la question. Puis, comment ils l'ont évalué, c'est qu'ils se sont dit le vieux pont est beaucoup trop désuet pour qu'on se redonne ce délai-là, qui aurait été un délai de 3 ans. Et en même temps, ils se disaient, est-ce qu'on va vraiment avoir un meilleur prix?
C'est 3 ans repartir en appel d'offres.
Ouais. C'est ce qu'elle nous a expliqué.
Ben là, ça aurait été ma deuxième question.
Ben moi aussi,
là.
Ça m'a sidéré.
Là, wow!
Non, moi aussi, ça m'a sidéré.
Non, mais je comprends.
Ça va être 3 ans.
La CAQ sera peut-être même plus au pouvoir.
Bon, ça, c'est un ouvrage d'envergure. Je veux bien comprendre, là, mais faisons le tour du monde, là, puis demandons, ça prend combien de temps à faire un appel d'offres puis à recevoir des soumissions sur des ouvrages d'envergure? Je peux pas croire que ça prenne 3
ans.
Ben
non, c'est impossible.
Ben ça, c'est une belle défaite. Tu me serais choquée d'avoir été là. Non, mais je pense que...
Je vais t'amener la prochaine fois.
Non, mais c'est ça, là. Voyons, dans 3 ans.
Ouais.
Mais à quelque part, là, il y a une rigueur dans la tenue de nos finances publiques qu'on manque. Est-ce qu'il y a trop peu de constructeurs d'ouvrages d'envergure comme ça au Québec? Est-ce qu'on aurait dû ouvrir les appels d'offres à l'extérieur? À un moment donné, il va peut-être falloir l'avoir, ce débat-là. Oui, on veut encourager l'entrepreneuriat québécois. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il n'y a pas des consortiums à faire avec des entreprises étrangères? Je ne le sais pas. Je suis en train de dire qu'on devrait se poser la question. On devrait ouvrir ce débat-là. On devrait regarder combien ça coûte se fier sur deux soumissionnaires pour aller de l'avant avec un projet comme ça. Parce que oui, 2,7, parce que je vais revenir à la question de base, 2,7 milliards de dollars.
Ouch.
Pour un pont qui ne traverse que sur une rive et qui laisse encore l'île d'Orléans enclavée. Moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que s'il y a une congestion sur le pont, le nouveau pont, s'il y a une congestion, s'il y a un véhicule en panne, s'il y a accident. Quoi que ce soit, un accident, il n'y a plus d'ambulance qui rentre ou qui sort de cette île-là. C'est dramatique. Ouais. Et on se disait toujours, bon, mais c'est parce qu'on a un vieux pont, on a un vieux pont. Là, on s'en va faire la même chose. On s'en va reproduire un pont avec une voie dans chaque sens. Donc, on va encore enclaver les gens de l'île. On va encore mettre en péril la possibilité pour une ambulance d'aller sur place ou de sortir de l'île en cas d'imprévu sur le pont. Mm-hmm. Ça me dérange beaucoup. On aurait dû au moins prévoir 3 voies.
L'équipe d'urgence va pouvoir se rendre en vélo.
Oui, c'est ça.
Il y a
une piste cyclable.
Transport actif.
Non, on aurait dû au moins prévoir une 3e voie, au minimum. Ben oui. Et l'autre chose, c'est que moi, je serais curieuse de sonder les gens de l'île pour voir s'ils n'aimeraient pas non plus être désenclavés pour pouvoir sortir sur la rive sud directement de mm-hmm. l'île, d'une quelconque façon, un tunnel, un pont. J'aimerais bien ça qu'on les sonde sérieusement sur si on faisait un extraordinaire beau pont, puis qu'on enfouissait aussi les fils électriques du côté de la rive sud, parce que ça, c'est l'air. Crime, là. Il n'y a personne qui peut dire. Les énormes pylônes rouges avec les fils d'Hydro-Québec qui passent sur la rive sud. Tu veux me parler de défigurer une île, là? Ça défigure
une
île.
Notre patrimoine électrique, qu'est-ce que t'en fais?
Non, mais on parle toujours de défigurer alors qu'il y a des extraordinaires beaux ponts. D'ailleurs, ce pont-là est extraordinaire.
Il
est super beau. Donc, c'est la preuve que c'est pas vrai qu'un pont, ça vient défigurer un paysage. Ça peut même l'agrémenter, ça peut même l'embellir, ça peut même lui donner un cachet, puis devenir un point d'attrait touristique, un point d'attrait visuel, une signature à une région. Puis ça, ben, on manque beaucoup d'ambition puis d'envergure quand on s'imagine que l'île d'Orléans, il faut qu'elle reste telle qu'elle.
Ouais. Tu m'amènes sur une dernière question super rapidement. J'ai posé la question à Geneviève Guilbeault. Avez-vous parlé à la caisse de dépôt de votre projet de pont de l'île d'Orléans? Parce qu'on se souvient, il y a un projet de troisième lien qui passerait par l'île d'Orléans. Puis elle m'a dit, on les a informés de notre projet. T'es-tu étonné qu'il n'y ait pas de communication comme ça?
Ouais.
Entre la caisse et le ministère du Transport. On se rappelle, c'est le ministère du Transport qui a donné le mandat à la caisse. Ça me semble devrait se parler, Caroline.
Ça n'a pas de bon sens, mais tu sais, c'est pratiquement orchestré, là, parce que
oui.
Être ministre des Transports, hier, j'aurais pas été à l'aise d'annoncer un pont en sachant qu'on est à un mois?
On
est à un mois de la sortie de la Caisse de dépôt et de placement sur sa vision pour un projet futur. Voyons donc qu'on annonce un pont comme ça, dans une axe qui est présentement complètement à l'étude selon ce qu'on a confié comme mandat à la Caisse de dépôt. Alors moi, je trouve ça très irresponsable. Je trouve qu'après ça, de dire qu'il était trop tard, on avait déjà annoncé le pont, c'est prendre les gens pour des imbéciles complètement.
OK, je lance une autre piste. Ils savent déjà? Sont-ils déjà au courant?
Qu'il n'y aura pas de troisième lien à l'Est?
Du résultat de la Caisse de dépôt?
Sûrement.
La question est fort légitime. Elle est fort pertinente.
Oublie pas, on parlait du remplaçant de François Legault. Ça se bat Geneviève Guilbeault et Bernard Drainville. C'est une autre victoire de Geneviève Guilbeault sur Bernard Drainville.
C'est un autre bon point aussi.
Effectivement, les guerres internes. Mais je suis contente que t'en parles.
Non, mais c'est vrai.
Il y a des guerres internes.
Il y a eu l'épopée des cartables. C'était une victoire. Oui. François Legault a remis cartables à Geneviève Guilbeault. Mais là, elle a répliqué que le pont de l'île d'Orléans.
Laissez-moi vous rappeler quelque chose. Par contre, s'ils sont à l'écoute, Geneviève Guilbeault et Bernard Drainville, bien surtout Geneviève Guilbeault, là, la guerre, là, ou l'adversité qu'il devrait avoir, là, puis les véritables vainqueurs ou perdants, là, c'est les résidents de la grande région de Québec et de la grande région de Lévis. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les résidents de la grande région de Québec et de la grande région de Lévis? On le sait. On le sait ce qu'ils veulent.
Oui, on va en jaser avec Gilles Lehoulier tantôt. Dans lui, il est craqué bien
raide. Ah, oui!
Jacinthe Averell, merci infiniment. Toujours un plaisir quand tu passes nous voir notre chroniqueuse politique à Rage Against le matin. Restez là. Courte pause. On revient après. Vous le savez, l'entente qu'il y avait sur la table entre le gouvernement et la FIC a été rejetée à 61%. C'est quoi le climat sur le terrain en ce moment chez nos infirmières? On va jaser avec une de nos bonnes infirmières, Jenny Boutette. Bougez pas. Reg.